Il est 18h au studio Kalangou, c'est l'heure du journal en français que vous présente Laura Ibrahim Gadou. Les titres. Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui, c'est le thème de la 68e édition de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée ce samedi. Focus sur les droits de l'homme au Niger dans ce journal. L'extrémisme violent en discussion à la Maison de la Presse. Une conférence débat sur ce sujet a été organisée ce matin à l'intention des hommes des médias. Les détails dans un instant. Nous irons à Agadez pour parler de la migration après le retour forcé d'Algérie de plusieurs centaines de migrants subsahariens. Avec Ternan Foudé Ahmed, nous parlerons aussi dans un instant des dispositions prises pour empêcher l'exercice du métier de passeur. La partie magazine de cette édition sera consacrée à l'élection présidentielle au Ghana et en Gambie. Bonsoir à tous. Le monde entier célèbre ce jour 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. À cette 68e édition, la Journée des droits de l'homme appelle chacun d'entre nous à défendre les droits de quelqu'un. Il est de la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme. Au Niger, quels sont les droits qui sont violés? Explication avec Abdoulaye Kani, coordonnateur du collectif des organisations des défenses des droits de l'homme et de la démocratie.
Aujourd'hui, dans notre pays, que tous les droits économiques, sociaux et culturels, leur effectivité laisse à désirer. Aujourd'hui, vous savez, depuis la rentrée d'octobre, pour ne pas dire de septembre, l'école ne marche pas au Niger. C'est un droit, le droit partie des droits économiques, sociaux, culturels. Aujourd'hui, le droit à la santé. Vous savez, depuis un an, voire deux ans, les médecins spécialistes, chaque semaine, sont en grève. Voyez-vous, c'est des droits fondamentaux de l'être humain qui doivent être respectés et pour lesquels, effectivement, il y a beaucoup à faire. C'est essentiellement les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où, souvent, même les conventions, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son protocole, bien que son protocole est contraignant, c'est là où on donne une marge de manœuvre aux pays, aux États parties.
Parlons toujours de la célébration de la 68e Journée internationale des droits de l'homme. En prélude de cette journée, l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique a organisé hier une conférence débat au niveau de la faculté d'agronomie avec comme thème le droit des peuples pour un environnement sain. Pourquoi ce thème? Explication avec Mamadou Amadou, responsable projet de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement.
Pour nous, c'est d'abord de faire connaître qu'il y a un droit qui est fondamental à une personne de vivre dans un environnement sain. Même si, paradoxalement, ce droit a été reconnu tardivement. Mais d'autant plus, ce droit est le premier pour nous, quand même, de tous les droits. Parce que sans un environnement qui est propice, il est pratiquement impossible de réclamer des droits civils ou politiques. Donc c'est un droit garanti qui permet à toute personne de vivre dans un environnement qui présente tous les caractères de santé et qui protège la génération présente et la génération future. Donc c'est une sorte de développement durable.
La Maison de la Presse a organisé ce matin une conférence de presse à l'intention des hommes des médias sur la lutte contre l'extrémisme violent. Le président de la Maison de la Presse, Ibrahim Harouna, a saisi l'occasion pour véritablement expliquer aux journalistes comment ils doivent éviter à contribuer à l'extrémisme violent à travers le traitement et la diffusion de l'information. Propos recueillis par Mokhtar Hamadou.
Vous savez, la vocation du journaliste, c'est d'abord la collecte, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Mais malheureusement, dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, on peut se tromper. On peut être au service des extrémistes alors qu'on ne sait pas, alors qu'on est en train de faire son travail. Donc, il faut que le journaliste soit sensibilisé, formé, que son travail peut servir de plateforme aux extrémistes, aux terroristes qui utilisent aujourd'hui dans leur logique les médias comme étant vecteur de la diffusion de l'idéologie violente. Donc si le journaliste n'est pas conscient, n'arrive pas à cerner les enjeux autour de la diffusion de l'information et les enjeux de la communication, il peut facilement servir les terroristes. Mais en ayant suffisamment d'informations sur la question de l'extrémisme violent, le journaliste peut arriver à ne plus contribuer ou bien à servir de plateforme pour les terroristes.
Nous irons à Agadez où le centre de transit des migrants ouest-africains en direction des pays du Maghreb et de l'Europe tente de réduire le phénomène de la migration en interdisant certaines activités liées au flux migratoire avec l'intervention de certaines institutions internationales. Tarnal Foudey Ahmed s'est intéressé à cette situation.
En février et avril dernier, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, a enregistré plus de 60 000 migrants à Agadez. Il y a quelques années, tous les migrants en partance pour la Libye ou l'Algérie débarquaient à la gare centrale d'Agadez sous le contrôle de la police, rappelle Amadou Oumarou, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs voyageurs section d'Agadez. Depuis le vote en mai 2015 de la loi interdisant formellement de transporter des migrants, aucun transporteur ne vient chercher les migrants à la gare d'Agadez, témoigne ces syndicalistes. Aujourd'hui, ils évitent la gare et grâce à des complicités locales, vont chercher les migrants dans les ghettos, ces maisons privées qui servent de dortoirs. En application de la loi de 2015, plusieurs dizaines de personnes transportées et passeurs courpissent à la maison d'arrêt d'Agadez. Une situation que dénonce Hassan Badagri, un jeune transporteur de migrants entre Agadez et Sigidim qui nourrit toute sa famille dans ses métiers. Mais de son côté, Ousmane Koutata Abdraman, président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez, parle de traite des personnes. Comment qualifier autrement, dit-il, le transport de 40 à 50 individus dans un Toyota pick-up? Le maire d'Agadez, Rissa Foultou, quant à lui, souligne que la migration a remplacé le tourisme qui était autrefois l'une des principales activités de la région. Aujourd'hui, cette nouvelle source de revenus risque de se tarir à son tour.
Restons dans le domaine de l'immigration pour suivre cette fois-ci ce témoignage d'un migrant qui a séjourné en Algérie et qui retourne finalement dans son pays, le Burkina Faso. Notre reporter Moussa Maman l'a interrogé. Voici son témoignage.
On est passé par le Sahara, on est arrivé à Arlit. Après Arlit, on est passé par Ingzam. Après Ingzam, on est passé par Tamaracet. Tamaracet, maintenant, on a travaillé là-bas un peu pour avoir le transport, pour aller jusqu'à Alger. On a fait quelques mois. Après ça, on a travaillé. On travaille, mais on ne nous paye pas bien. Oui, en Algérie. Et par jour, on nous paye 1500 dinars.
On peut savoir comment vous êtes parti en Algérie?
Oui, on est parti en clandestin.
Vous avez suivi quelle route?
On est passé par le Sahara. On a traversé le Sahara. Bon, en Algérie, on est mal installé là-bas parce qu'on n'était pas à l'aise. Oui, on dormait dans les chantiers. Oui, le froid, malgré que le froid nous tapait bien, le manger ne suffisait pas. Ça ne va pas, on se sent mal. Parce qu'on a beaucoup souffert. Oui, en cours de rapatriement, on a beaucoup souffert. On nous a enfermés quelques jours. On nous donnait pas à manger. En Alger, là-bas.
Après moult reports et la récente nomination du président de la Commission nationale des élections professionnelles, beaucoup de travailleurs nigériens se demandent à quand finalement la tenue des élections professionnelles au Niger. Selon Tijani Habib Tal, membre de la CONEP, le président de la CONEP n'a pas quitté et le processus suit son cours normal. Propos recueillis par Mokhtar Hamadou.
Il ne faut pas lier le fonctionnement d'une structure ou bien d'une organisation à une personne. Il n'a pas quitté, il a eu un poste, mais on lui a dit d'assurer ça concomitamment, c'est-à-dire cumulativement de le faire. Mais même à sa présence, toutes les activités étaient réalisées par des sous-commissions. Il faut que les gens comprennent. Il est un coordinateur et donc il y a un bureau qui existe qui essaie d'assurer quand même le fonctionnement. Les sous-commissions qui sont là, fichier électoral, la sous-commission fichier électoral, la sous-commission administrative et juridique, la sous-commission financière, la sous-commission matérielle et logistique, tout ces sous-commissions-là ont fait leur planning et sont en train de travailler. Ce qu'il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées dernièrement et ce sont ces préoccupations-là qu'on a dit qu'il faut les prendre en compte. Sinon, on risquerait, si on dit non, on s'en fiche, on ne va pas en tenir compte, on risquerait d'aller vraiment dans le mur. Donc vraiment, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un processus et un processus n'est pas comme une course cycliste, là où il y a le départ et l'arrivée. Et nous, dans le processus, on essaie d'évacuer un certain nombre de problèmes qui peuvent être préjudiciables à la qualité même des élections professionnelles.
L'Union des écoles, des instituts et écoles professionnelles et techniques, l'UEIEPTN, a rendu public ce samedi une déclaration à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Niamey. Selon le SG de l'UEIEPTN, Nasser Moukaila, les différents points à l'ordre du jour des récentes négociations avec les autorités régionales étaient au centre de cette déclaration. Propos recueillis par Mokhtar Hamadou.
Nous avons eu des négociations avec les autorités régionales, à savoir les gouverneurs et une délégation régionale. Donc nous avons échangé autour des problèmes des écoles de santé qui sont, entre autres, le paiement de leur bourse et leur pékin. Donc il y a eu des engagements, nous avons tenu à rappeler dans cette déclaration la nécessité de tenir et d'honorer leurs engagements. Nous avons également salué une décision du président de la République. Le président de la République avait pris une décision de rejeter des recommandations faites au niveau du forum des dossiers, un forum convoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur, et des recommandations impopulaires et suicidaires ont été prises. Et voilà que le président de la République a compris que ça ne contribue pas pour garantir la calmie ou l'instabilité dans nos établissements scolaires et l'a rejeté. Nous avons salué cette décision du président de la République.
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Agadez.
Sur la radio Nomade FM.
101.9 FM.
Studio Kalangu.
Le magazine de ce soir est consacré à l'élection présidentielle au Ghana où c'est le principal opposant qui remporte le pouvoir face au président sortant John Dramani qui a accepté sa défaite et a félicité le gagnant. Quelles leçons retenir de cet exemple ghanéen en démocratie? Le professeur Issoufou Yaya explique au micro de Hamadou Moumouni.
C'est la culture démocratique qui est installée dans la société ghanéenne, dans le peuple ghanéen, et je crois que cette troisième alternance montre la vivacité de la démocratie dans ce pays, qui est un véritable modèle et dans lequel il y a des avancées quasiment sur tous les plans. Ça veut dire qu'en Afrique, quand les dirigeants sont responsables, ils peuvent facilement accepter la défaite et souhaiter bonne chance donc à celui qui est élu, et c'est le cas de ce qui s'est passé au Ghana. Quand le peuple est mature, les dirigeants ne peuvent plus manipuler. Et je pense que ici, c'est le peuple ghanéen qui sort victorieux d'une certaine pensée qui a pris place dans la majeure partie des pays africains. D'accord.
Alors, vous avez pris l'exemple du Ghana, ça aurait pu être au Niger, au Tchad ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre les peuples?
C'est ce qui fait la différence, c'est la culture politique. Je pense que la culture politique au Ghana est tellement développée, c'est une culture de développement. Et je pense qu'on le doit beaucoup à Jerry Rawlings. Il a su quitter le pouvoir de lui-même après avoir mis les compteurs à zéro. Donc, il y a une certaine résistance qu'il a éliminée pour instaurer la démocratie, et cette démocratie, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de donner le bon exemple en Afrique, au point où on assiste à la troisième alternance.
On va en Gambie, où il y a eu quand même, dans un premier temps, le président sortant qui a reconnu sa défaite. Et il revient sur la charge en disant qu'il n'accepte pas les résultats parce que ce n'est pas les vrais. Est-ce que vous êtes étonné?
À la fois, le fait qu'il ait accepté a été étonnant, à la fois ce revirement est aussi étonnant et semble avoir pris de court toute la classe politique internationale. C'est que les habitudes ont la vue dure et je pense que ça a été très facile que Yahya Jammeh ait accepté facilement sa défaite. Alors maintenant qu'il conteste véritablement les présidentielles, maintenant qu'il a changé même les dirigeants militaires, je pense qu'il va rester au pouvoir, sauf si la communauté internationale peut-être fasse véritablement pression pour le faire partir.
Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir écoutée.